émission Dialogue entre Congolais avec Alain Roux.
Bonsoir. 10 ans après la promulgation du code forestier, les experts en environnement se disent satisfaits de l'ensemble des lois relatives à l'exploitation forestière, mais dénoncent leur non-application. Dans une pétition adressée au Premier ministre, ces experts recommandent de prendre des mesures pour que les ressources forestières contribuent au développement socio-économique de la RDC. Quel bilan dressé de l'exploitation forestière en RDC 10 ans après la promulgation du code forestier? Nous recevons comme invité ingénieur José Ilanga, directeur des études et de planification au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Monsieur Ilanga, bonsoir.
Bonsoir.
Madame Françoise Van de Ven, secrétaire générale de la Fédération des industriels du bois, FIB en sigle. Madame Van de Ven, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Marie Bolika, chef des projets société civile au Fonds mondial pour la nature, WWF. Monsieur Bolika, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, chers auditeurs et internautes. Vous le savez, vous êtes le 4e invité. Merci pour vos réactions. Octave Zahinda de Bukavu Sud Kivu. Pourquoi parler du code forestier alors qu'à l'Est, seuls les groupes armés font la loi dans nos forêts? On coupe les arbres quand on veut, même l'État n'accède pas dans toutes les forêts. Jean-Bernard Mibeko de Mandaka à l'Équateur, le bilan est largement négatif, rien de concret au profit des populations riveraines des sites d'exploitation. Ce secteur est caractérisé par des violations systématiques du code forestier. Les opérateurs de ce secteur évoluent dans l'impunité totale sans qu'ils ne soient ramenés à l'ordre par les services compétents. Merci de votre fidélité et de votre attention. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Publié en août 2002, le Code forestier est un ensemble de 156 articles qui réglementent la gestion des écosystèmes en République démocratique du Congo. Ce Code instaure le régime applicable à la conservation, à l'exploitation et à la mise en valeur des ressources forestières sur l'ensemble du territoire national, qui sont ses trois objectifs principaux. Quelques points saillants de cette loi avec vous, Kéline Côté.
Par rapport au texte de base du régime forestier congolais, ces mesures d'exécution qui dataient du 11 avril 1949, cette loi a porté comme innovation sur le plan institutionnel, entre autres, la création d'un cadastre forestier, tant au niveau de l'administration centrale qu'à celui de l'administration provinciale, la création d'un conseil consultatif national et des conseils consultatifs provinciaux des forêts. D'un autre côté, sur le plan de la gestion forestière, dans la présente loi, la concession forestière se démarque nettement de la concession foncière et constitue un droit réel immobilier parce que portant uniquement sur le bois. Et aussi pour assurer le développement durable des ressources naturelles, la présente loi introduit dans la gestion forestière deux concepts, celui d'inventaire forestier et celui d'aménagement forestier. Par rapport au décret du 11 avril à la loi de 1949, cette loi insère dans le régime forestier des dispositions spécifiques relatives à la fiscalité forestière. Celle-ci se distingue de la fiscalité ordinaire et vise à asseoir une politique de taxation forestière qui soit à même de garantir à la fois une gestion durable de la ressource forestière, une incitation à la meilleure gestion forestière et une conciliation d'objectifs de développement de l'industrie forestière et de l'accroissement des recettes forestières.
Merci Kéline Côté. Jean-Marie Bolika, je rappelle que vous êtes chef des projets société civile au Fonds mondial pour la nature, WWF. En sigle, 10 ans après, quel bilan vous dressez de l'application du code forestier en RDC?
Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'emblée que les codes forestiers tels que le législateur l'a conçu, c'était pour contribuer à la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire que à travers la nouvelle loi, parce que l'ancien, comme le président Tedd l'a dit, était obsolète et inadapté par rapport au contexte actuel. Et avec le nouveau code, l'État devait avoir plus de ressources pour contribuer au développement socio-économique de la population. Mais quand vous me demandez, si je pouvais dire, quel bilan puis-je faire 10 ans après, oui, le code nous a permis à ce que 10 ans après, nous ayons aujourd'hui l'État puisse, en premier lieu, puisse mieux connaître la ressource forestière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que l'État, avec le nouveau code, l'État aujourd'hui a réussi à ramener plus de 12 millions d'hectares de forêt qui étaient détenus par des personnes non en règle vis-à-vis de l'État. Plus de 12 millions sont aujourd'hui ramenés dans le domaine, donc les forêts sont ramenées dans le domaine, donc sont devenues dans le domaine public de l'État. Et il y a eu des avancées, entre autres, la production de plusieurs textes réglementaires qui ont permis à ce qu'on puisse les appliquer. Il y en a plusieurs, je ne saurais pas les dire.
Une quarantaine à peu près.
Oui, il y a eu 45, mais environ 45, mais environ 35 mesures d'application ont été prises. Et il y en a eu plusieurs, mais la fameuse, c'est la fameuse qui est connue, qui peut être considérée aujourd'hui comme une bible, c'est l'arrêté 023 qui consacre le clause social des cahiers des charges. Et ce texte d'application a permis, c'est le texte qui régit le partage des revenus ici de l'exploitation forestière entre les exploitants forestiers et les communautés locales et peuples autochtones.
Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme faiblesse?
Les faiblesses que j'ai relevées, c'est pas moi qui ai relevé, mon organisation, le Fonds mondial pour la nature, a initié une étude. Et cette étude-là a abouti à relever quelques points négatifs ci-après. L'étude a relevé que le zonage forestier est inachevé. Le problème de signature des contrats de concession forestière est inachevé. Les cahiers de charges, le clause social des cahiers de charges sont aussi inachevés. Le contrôle forestier, qui devait permettre l'État congolais de mettre la main sur les contrevenants, sur toutes les personnes qui violent le code forestier, est presque inexistant, pour ne pas dire inefficace. Les tracasseries de tout genre, la fiscalité forestière elle-même, je parle de la fiscalité comme la parafiscalité. Il y a dans ce secteur environ 155 taxes et impôts à lever. Il y a même des taxes qu'on appelle la taxe d'évacuation, qui est une taxe illégale et qui est en fait prélevé par les provinces. La décentralisation et la rétrocession. Je ne sais pas aujourd'hui si quelque part on peut nous dire, par rapport à la redevance forestière, les 40% qu'on devait rétrocéder en province, si réellement les 40% là, une province aujourd'hui peut nous faire une traçabilité. Les textes d'application, je parle d'inachevé parce que nous devions atteindre 45. Et la conséquence, encore, c'est quoi? C'est la recrudescence de l'exploitation illégale du bois. Les textes sur les forêts des communautés locales, jusque-là, ne sont pas signés. La politique forestière, elle est inexistante. Nous n'avons qu'un draft. Je m'arrête là.
Alors, au début de votre intervention, vous avez affirmé que l'objectif de ce nouveau code était notamment de lutter contre la pauvreté. Cet objectif a-t-il été atteint 10 ans après, d'après vous?
Je disais que l'objectif n'est pas atteint parce que, en fait, l'État, pour lutter contre la pauvreté, l'État doit avoir des moyens. Les moyens, c'est à travers les impôts et taxes. Mais est-ce que aujourd'hui, si nous avons autant de permis qui sont délivrés comme ça, où on ne sait pas les maîtriser, avec des gens qui n'ont pas de domicile fiscal. Je ne vais pas les citer ici, mais je vous dis que les soi-disant exploitants artisanaux ont des domiciles à Kinshasa, mais personne aujourd'hui peut nous dire où se trouvent leurs entreprises. Aujourd'hui, je ne sais pas si ces gens-là déposent les bilans à la DGI. Je ne sais pas si ces gens-là signent les clauses sociales des cahiers de charges avec les communautés.
Madame Françoise Van de Ven, vous êtes secrétaire générale de la Fédération des industriels du bois, FIB en sigle. Quel est votre bilan? Vous, souvent, on reproche aux exploitants le non-respect des cahiers des charges. Les populations riveraines ne se retrouvent pas. 10 ans après, qu'est-ce que vous dites? Quel est le bilan que vous vous dressez?
Bon, je crois que la grande problématique persiste dans le sens que les populations ne peuvent pas connaître qui sont les exploitants industriels, c'est-à-dire les détenteurs de concessions forestières qui ont passé la revue légale de 2009, et les exploitants qui sont des illégaux, des artisanaux, on peut les appeler beaucoup de titres, et qui viennent avec des permis de coupe, et la population fait beaucoup de confusion entre un permis de coupe ou un contrat de concession forestière. Et donc, de cet amalgame, on sort que la population conclut qu'ils ne sont pas bénéficiaires de retombées, parce que justement, tous ces exploitants artisanaux ou illégaux n'ont pas d'engagement social avec les populations. Et donc, on est tous mis dans le même pot, dans la même marmite, et on nous traite de la même façon. Alors que ces exploitants artisanaux ou illégaux, parce qu'il y en a beaucoup qui sont illégaux, et comme a dit Jean-Marie Bolica, on connaît des adresses, ils font mettre des adresses sur les documents qu'ils ont besoin pour exporter, mais quand vous allez chercher physiquement ces sociétés-là, ils sont inexistants. Il n'existe pas.
Mais il semblerait, d'après même plusieurs réactions que nous avons reçues ici, que ce serait vous, les exploitants, les industriels de bois, qui ayez beaucoup plus gagné pendant les 10 ans de l'application du code forestier, voire même l'État congolais.
Mais une fois de plus, hein, c'est qui nous? Parce que moi, je ne peux pas représenter des gens qui sont illégaux. Si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plus de bois illégaux ici à Kinshasa que de bois légal, alors vous avez compris que nous, on est devenu une minorité. Nous, si vous voulez, le secteur officiel, on peut voir 200 000 mètres cubes parfois à l'export annuellement. Mais ici, là, aujourd'hui, nous parlons qu'il y a plus de 100 000 mètres cubes de bois illégal, plus encore du bois artisanal ou légal, avec des autorisations qui légalement n'existent pas, des autorisations d'achat, de vente, des permis d'exportation. Ce sont tous des documents qui ont été créés pour faciliter justement ce genre de trafic. Et c'est finalement, c'est nous qui sommes dupes de l'histoire, parce que nous sommes obligés de réaliser des plans d'aménagement, des clauses sociales qui sont très coûteuses, et nous nous en sortons plus. Si vous voyez aujourd'hui les sociétés formelles reconnues, vous allez les visiter, vous avez l'impression que tout le monde est en congé parce qu'il n'y a simplement plus de travail. À cette allure, nous avons à peu près 5000 personnes qui ont perdu leur emploi sur les derniers 18 mois. Et cela ne fait que continuer.
Et au niveau de la Fédération des industriels du bois, vous recensez à peu près combien d'entreprises ?
Officiellement, donc, sur les 28 sociétés qui ont passé la revue légale avec donc les 78 titres, il y en a 13 qui sont chez nous et qui couvrent à peu près 80% de la superficie octroyée par l'État pour l'exploitation industrielle. Je parle bien industrielle. Donc, je ne sais pas comment on peut procéder pour que les gens puissent arrêter d'avoir la confusion, mais je crois que c'est peut-être la possibilité doit être donnée à expliquer aux populations de reconnaître comment ils peuvent au fond repérer les concessionnaires et ceux qui sont des illégaux.
Et parmi les 13 entreprises de la FIB, est-ce que vous pouvez affirmer que pendant ces 10 ans, les cahiers de charges ont été respectés, que les populations riveraines se sont retrouvées?
Mais le cahier de charges, le modèle type, l'arrêté 023 dont Jean-Marie a fait référence, il est sorti en 2010.
2010.
Oui. Alors nous nous sommes retrouvés sur le terrain avec des populations qui ne connaissaient rien du tout, quels étaient leurs droits ou leurs obligations. Et nous avons sollicité dans plusieurs réunions qu'un projet puisse être mis en route pour justement vulgariser et sensibiliser ce type de contrat auprès des populations. Il y a l'ONG WWF qui a même formé plusieurs ONG nationales pour le faire. Ils ont fait un projet dans ce sens et finalement la Banque mondiale a financé aussi un projet pour la vulgarisation, la sensibilisation. Mais entre-temps, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Donc il y a des sociétés qui ont pris à charge toute la partie vulgarisation, sensibilisation avec des ONG nationales pour pouvoir arriver à signer les clauses sociales, parce que sans clauses sociales, vous ne pouvez pas signer votre contrat.
Jean-Marie Bolica a dénoncé la fiscalité et parafiscalité exagérée avec près de 155 taxes et impôts. Ça devrait vous intéresser, ça?
Mais ça nous intéresse dans le sens que dans le cadre de FLECT, les négociations donc avec l'Union européenne. Nous avons fait, nous avons obtenu l'appui de l'Union européenne pour faire une étude sur la fiscalité, la parafiscalité, pour arriver à la fin à élaborer, si vous voulez, un vade-mecum qui va reprendre les taxes qui sont à payer réellement avec base juridique et également la façon dans laquelle ils doivent être payés, parce que là aussi nous connaissons des problèmes. Il y a des taxes qui sont payées non aux caisses de trésor public mais au niveau d'institutions et là l'effet de ces paiements là il n'y en a pas, il n'y a pas de traçabilité. Donc c'est ce projet-là sur lequel nous avons eu le 14 août un atelier ici à Kinshasa, des arbitrages politiques. Et donc par la suite, il y a même eu les assises nationales de l'amélioration du climat d'affaires où au fond, cet examen de taxes qui sont soit illégales, qui sont pour ordre, qui sont sans contrepartie, où on commence à élarguer cela pour améliorer le climat d'affaires aussi.
Ingénieur José Ilanga, vous êtes directeur des études et de planification au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Vous avez suivi le chapelet des forces et des faiblesses énuméré par Jean-Marie Bolika. Quel bilan vous dressez de l'application 10 ans après du code forestier en RDC?
Merci Alain. Je crois que je suis très rassuré de constater qu'effectivement la société civile reconnaît que le bilan est positif.
Et à certains égards.
Oui, à certains égards. Mais lorsqu'on dit positif, c'est par rapport à l'ambition que s'est fixé le gouvernement de la République démocratique du Congo, dont le pays en général, et s'est doté d'une nouvelle loi. Et je m'en vais vite et brièvement rappeler que deux facteurs ont joué, influé positivement pour la révisitation de la loi dont Jean-Marie a fait allusion, donc la loi forestière de 1949. Il y a d'abord les facteurs internes. Les facteurs internes voulaient qu'on remplace cette loi qui était devenue obsolète, ça c'est un, et qu'on dote le pays, d'une loi qui puisse permettre à la forêt de remplir en équilibre ses équilibres écologiques et sociaux, permettre à l'administration forestière de contribuer efficacement au développement économique du pays. Et enfin, permettre, puisqu'on l'a dit ici, aux communautés locales de bénéficier du bien fondé de la gestion des ressources forestières. Non seulement de bénéficier, mais les intégrer aussi dans cette gestion. Alors, sur le plan extérieur, comme vous savez, la communauté internationale et les États en général constatant l'importance et la nécessité de préserver les ressources forestières pour plusieurs raisons, vous le savez. Et je donnerai seulement un cas, c'est le cas de la lutte contre les réchauffements planétaires. Ils ont compris et ont aussi influé sur l'importance et la nécessité de la conservation de la nature et de l'environnement en général. Et toujours sur le plan extérieur, les pays, les nôtres, ayant adhéré à plusieurs conventions sous-régionales, régionales, internationales, se devaient d'adapter sa loi dans son arsenal juridique à l'évolution sous-régionale, internationale et mondiale. Voilà. C'est ça le fondement du code forestier. Alors maintenant, s'il faut faire les bilans, c'est par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Du point de vue institutionnel, je déplore un peu le fait que la société civile n'a pas reconnu que ces pays, les nôtres actuellement, disposent d'un document technique, les politiques forestières, qui a été élaboré conformément à l'esprit du code forestier et que ce document a été validé il y a un an par toutes les parties prenantes au cours d'un atelier national. Donc, je passe pour dire que ce document a été élaboré avec l'accompagnement de la FAO et sous la direction du ministère ayant les forêts dans ses attributions. Donc, je m'en vais corriger un peu cette prise de position. Les documents existent. Les innovations, puisqu'on parle, vous avez beaucoup plus fait allusion aux retombées socio-économiques. Je crois qu'il faut reconnaître que les dispositions du code forestier ont été plus ou moins rencontrées. Je peux dire même à plus ou moins 70%. Et je m'en vais citer le cas des droits d'usage forestier. Il est reconnu à la communauté riveraine des droits d'aller, même dans une concession forestière, récolter les plantes médicinales, les champignons, les chenilles, tout ce que vous voulez. Ça, c'est consacré par les codes forestiers. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un seul exploitant forestier, moins encore un délégué de la société civile qui puisse nous dire il est interdit à une communauté d'aller dans une concession pour récolter les produits forestiers non lignés.
Oui, mais ingénieur Ilanga, vous avez toujours la parole, mais Madame Françoise Van de Ven a souligné un élément important. La loi existe, mais pas suffisamment vulgarisée. Les populations riveraines ne connaissent pas leurs droits.
Non, par rapport à ça, il y a à boire et à manger. Vous savez, ce qui consacre un peu les innovations du code forestier, c'est le fait que son applicabilité incombe à toutes les parties prenantes. Il y a l'administration forestière, bien sûr. Il y a la société civile ici représentée par les exploitants forestiers industriels. Il y a la société civile. Et je crois que ce n'est pas aujourd'hui que la société civile doit se dérober par rapport à la vulgarisation du code forestier, parce qu'il est incombé d'appuyer l'administration forestière dans la vulgarisation. Alors, je m'en vais aussi, j'ai cité le cas des usages forestiers. Il y a la rétrocession dont on parle. Je crois qu'on ne parle plus en termes de rétrocession. La constitution est claire, c'est la retenue à la base. Je crois que c'est le principe qui est maintenant acquis.
Ce principe est-il respecté?
Est-ce que ce principe est acquis? Je crois que le principe est acquis, puisqu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, il y a un atelier national organisé par le ministère de la décentralisation, et ils ne sont pas revenus là-dessus, parce qu'on considère que dans un fourre-tout de la rétrocession de 40% aux provinces, on suppose qu'il y a la redevance sur les superficies forestières. Je m'en vais aussi vous dire que parmi les avantages, il y a ce qu'on a dit ici. Un avantage direct, c'est quoi? C'est à travers la négociation et la signature des clauses sociales. Et je crois, Madame Van de Ven, ou Jean-Marie l'a dit, il y a un arrêté 023 qui permet de faciliter la négociation et la signature des clauses sociales. Et je peux dire aujourd'hui que c'est effectif parmi, dans les 43 ou 45 titres forestiers convertis en contrat de concession forestière, il y a déjà cet acquis pour la société, pour les communautés locales.
Jean-Marie Bolika, je vous ai vu sourire pendant que l'ingénieur Ilanga a parlé. C'est vrai, lui n'a sauté que sur les points positifs. Comment vous réagissez?
Bon, l'ingénieur Ilanga, c'est pas, il est parmi les personnes qui maîtrisent bien le secteur. C'est un directeur, c'est pas un petit monsieur que je dois. Bon, qu'est-ce que j'ai réagi? Je reviens sur la question de la décentralisation. Et il dit que c'est pas plus tard que 2 semaines. Alors que, avant les 2 semaines, il s'est posé un problème entre la Constitution, la loi sur la libre administration des provinces, et tous les textes qui sont liés à la décentralisation et les codes forestiers. Donc, ça veut dire que le problème, si il a été résolu il y a 2 semaines, Dieu merci. Mais le problème reste encore entier parce que si aujourd'hui le problème est résolu, mais hier, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que les administrations ont fait de l'argent ici de la redevance forestière? Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous aller quelque part, quel est ce service-là de l'État qui peut nous dire comment cet argent-là a été collecté? Où est-ce que cet argent est parti? Est-ce que les territoires forestiers où il y a eu des concessions forestières, ils ont payé les impôts et taxes? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut, je reviens sur la redevance forestière, est-ce qu'il y a une traçabilité? Je sais, à mon avis, que là où quelque part il y a eu de l'argent qu'on a envoyé, à un niveau donné, cet argent-là n'arrivait pas au niveau des territoires. C'était soit si l'argent quitte l'administration centrale pour la province, au niveau de la province, on retire ce qui est leur part. Au niveau du district, qui n'est pas concerné par la répartition, on prend l'argent, on appelle l'administration du territoire, on lui dit, prenez ça. L'administration du territoire qui dit, moi, ce que j'ai eu, il voit la part qu'il a obtenue, alors que ce n'était pas ça, ce qui est prévu. Il va acheter sa moto, et à la fin, le territoire ne gagne absolument rien. Ça, c'est un cas. Et j'ai plusieurs cas à démontrer comme ça dans plusieurs territoires forestiers.
Alors, Madame Van de Ven a tout à l'heure dit qu'au niveau de la Fédération des industriels du bois, il y avait déjà presque 5 000 personnes au chômage. On comprend par là que le secteur formel dans ce domaine ne se retrouve pas. Jean-Marie Bolika, finalement, qui se retrouve? Le secteur formel représenté par Mme Van de Ven ici a 5000 personnes au chômage, c'est qu'ils ne se retrouvent pas. Qui se retrouve finalement dans tout ça?
Bon, je crois que la part, on a bien circoncis hein, les choses. Il y a l'administration, la société civile, il y a le secteur privé. Nous avons évoqué, je crois que je vous ai fait allusion à l'arrêté 023. Nous avons fait notre travail pour que les communautés puissent savoir leurs droits et leurs obligations, pour qu'ils soient capables de mieux négocier avec les exploitants forestiers, pour que les accords qui seront signés soient des accords transparents, et qu'il y ait des infrastructures socio-économiques au profit de ces communautés-là, il y ait des routes, les écoles et les hôpitaux, y compris des facilités de transport. Je crois que là, il y a un problème, il y a à boire et à manger, parce que l'arrêté en question a été signé en 2010. Il y a dans le secteur, il a fait allusion à 28 ou 26 entreprises forestières. Il y a d'autres qui ont commencé à faire quelque chose. Et d'autres aussi qui n'ont pas encore commencé. Je crois que, quelque part, je vous ai fait, dans le chapelet des points négatifs que j'ai évoqués, j'ai relevé la question du contrôle forestier qui est inefficace. Je crois que c'est la responsabilité de l'administration forestière qui devait, à leur niveau, vérifier là où les mesures ont été prises. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait?
Madame Françoise Van de Ven, il y a Blanchard Luana de Mbandaka à l'Équateur qui dit « Le bilan des 10 ans en vigueur du code forestier est largement négatif, surtout sur le point d'exploitation de notre forêt équatoriale par les expatriés qui se foutent, permettez l'expression, de l'application de toutes ces lois parce qu'ils ont des couvertures de certaines autorités du gouvernement central, madame.
Bon, c'est, comment dirais-je, une théorie qu'on est habitué d'entendre de la part de Bandaka.
Parce qu'il ne se retrouve pas, n'aurait-il pas raison?
Non, je crois que c'est pas tellement ça. Aujourd'hui, il y a une concession qui est non loin de Bandaka, où les gens coupent illégalement, et ça c'est sous autorisation aussi des autorités provinciales. Dès que vous pouvez vous approcher de cette exploitation-là, on vous dit simplement aller voir les autorités de la province. Donc, je crois que au niveau des clauses sociales, on a déjà précisé que ça existe depuis 2010. Et nous sommes un peu exemplaires dans la sous-région, même parce que ce que nous avons fait ici avec la société civile et l'administration, c'est que nous avons pu faire un contrat dans le sens où les retombées socio-économiques sont égales ou sont liées à la production. Donc on ne peut plus trouver, par exemple, une grande société qui a une grande concession et qui fait une école sur 5 ans, et d'un autre côté, une plus petite qui va faire une école, un centre de santé et encore une route. Donc tout est lié à la production. Donc automatiquement, c'est plus avantageux évidemment quand c'est une grande concession. Et je dois sincèrement vous dire, dans la sous-région, on a parlé avec plusieurs pays, des experts de plusieurs pays, ils aimeraient bien pouvoir copier le même système chez eux parce que c'est beaucoup plus équitable pour tout le monde et pour la population et pour la société forestière. En même temps, il y a ici aussi des études qui ont été fait pour voir si nous ne pouvons pas extrapoler ce même système au niveau du secteur minier. Donc je crois que ça a pris du temps pour qu'on puisse arriver, parce que ce guide, ça a pris 2 ans pour l'élaborer, mais je crois que tel qu'il est élaboré, il est beaucoup plus sérieux et réaliste à tous les niveaux comparé à ce qu'on fait par exemple dans des pays voisins. Donc ça a duré du temps, ça a pris du temps, mais nous allons avancer, mais en même temps, il est quand même souhaitable que les autorités provinciales aussi puissent commencer à nous protéger, parce que comme les clauses sociales sont liées à la production, tout arbre qui est coupé illégalement de notre concession, automatiquement les populations n'ont pas de retombées. Alors quand je vous parle de retombées, je peux vous donner l'exemple. Quand on approche des populations où le chef ou des notables ou autres dans une concession ou même dans un endroit où il n'y a pas de concession, on peut leur donner 10 000 francs congolais pour tout un arbre d'aphromosia. Et si vous allez maintenant voir ce que ça a retombé pour la les clauses sociales, ce même arbre, il peut alimenter le fonds avec 80 à 100 dollars pour les retombées. Donc vous voyez, les populations ne sont pas informées, ne connaissent pas leurs droits, ne connaissent pas non plus ce qu'ils peuvent profiter, et ça permet à tout le monde à faire du n'importe quoi.
Et vous en bénéficiez également.
Mais nous, on n'en bénéficie pas parce que nous, on paye la redevance de superficie forestière sur le bois qu'on doit couper. La redevance, c'est un droit d'exploiter. C'est pas une concession, une propriété foncière. Donc, si le bois n'est plus là, nous avons payé pour rien.
Alors, Madame Van de Ven, à l'instar du code minier, il y a des observateurs qui pensent que le code forestier également, ce sont des lois importées d'ailleurs, non adaptées aux réalités congolaises. Quel est votre point de vue?
Mais il y a certainement, on peut pas dire, on ne doit pas cracher sur le code forestier parce qu'il a beaucoup de mérite. Et il fallait effectivement, comme l'ingénieur Ilanga l'a dit, après 1949, on était vraiment grandement en tant qu'on ait une autre législation forestière. La seule chose que nous déplorons, effectivement, c'est qu'au moment où il a été élaboré, le secteur privé n'a pas eu à être associé, ce qui fait qu'il y a certaines mesures qui sont difficilement applicables et donc qui nécessitent une révision du code forestier.
Ingénieur José Ilanga, je rappelle que vous êtes directeur des études et de planification au ministère de l'Environnement, conservation de la nature et tourisme. Dans le chapelet des faiblesses que Jean-Marie Bolic a énuméré, il y a l'absence du contrôle forestier, presque inexistant. Il y a également, on a parlé de rétrocession, des textes inachevés.
Merci. Non, je commence d'abord par corriger ce que Jean-Marie a dit tout à l'heure par rapport à la rétrocession ou retenue à la base de la redevance superficielle forestière.
J'ai
j'ai pas dit qu'il y a à peine deux semaines que cela est effectif. Non. J'ai dit si cela n'était pas effectif dans les recettes rétrocédées aux provinces, dont notamment la redevance superficielle forestière, l'atelier tenu il y a deux, trois semaines allait nous démentir. J'ai pas dit que cela est effectif. Seulement il y a deux semaines. Et je reviens un peu sur les faiblesses, au fait. Nous sommes là pour voir est-ce que le code forestier, par rapport à sa vision, par rapport à son mandat, constitue une réussite 10 ans après. Lorsqu'on nous dit que le contrôle forestier n'est pas efficace, je veux bien, il faut voir aussi l'étendue du pays, mais il ne faut pas non plus perdre de vue des avancées considérables au niveau de la structure qui est appelée à gérer les ressources forestières de la RDC, dans le ministère de l'Environnement. Je vais citer un cas. Effectivement, il y a un problème d'exploitation illégale, il y a un problème d'exportation illicite du bois congolais vers les autres pays comme l'Angola, comme l'Ouganda, comme le Cameroun via la Centrafrique.
Avec la bénédiction des dirigeants d'après certains observateurs.
Ça, ça a démontré et ça viendra pas de moi. Je vais juste dire que les pays représentés par le ministère de l'Environnement a signé, il y a de cela déjà plus de d'un an maintenant, un contrat avec une société des droits suisses qui est connue, Société Générale de Surveillance, qui a fait ses preuves dans les autres pays de la sous-région pour essayer de juguler, je dis bien, l'exploitation forestière illégale et l'exportation illicite des bois congolais, mais aussi renforcer les capacités d'intervention des services attitrés du ministère de l'Environnement. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui soit fait. Le programme est en cours. Jugeons-le peut-être dans 2-3 ans, mais en tout cas, le programme est en cours. Il y a un effort par rapport à ça. Lorsqu'on dit les zonages forestiers inachevés, non, il n'a pas commencé. Le zonage n'a pas commencé sur le terrain. Et la société civile fait partie du comité national de pilotage des zonages forestiers à RDC. Et nous venons maintenant de faire valider par l'autorité les termes de référence pour démarrer les travaux. Et les travaux viennent à peine de démarrer. Donc on ne peut pas dire que rien n'est fait par rapport au zonage ou encore ce qu'on appelle techniquement l'affectation des terres forestières de la RDC. Je vais aussi terminer peut-être par là lorsque l'on nous dit non, les clauses sociales inachevées. Mais non. Les clauses sociales ont été négociées, facilitées et signées. Madame Françoise vient de le dire. Maintenant, c'est son exécution. Je crois que quelque chose est déjà fait. Et il faut bien noter, il faut bien spécifier les choses. Ce que l'on recherche à travers la rétrocession, la retenue à la base, ou encore à travers les clauses sociales, c'est pas l'argent qu'on doit rétrocéder à un territoire. Ces avantages concerne le développement des infrastructures socio-économiques et culturelles. Et c'est ça qui est repris dans les clauses sociales. Ce n'est pas de l'argent. Donc, moralité, si nous allons maintenant dans les territoires où opèrent certains exploitants forestiers industriels, il y a des données sur les terrains, et puis je suis sûr que la société civile ici, représentée par WWF, peut témoigner qu'effectivement, dans certains territoires, les travaux ont déjà démarré par rapport à travers les clauses sociales.
Alors, ingénieur José Ilanga, peut-on avoir une idée de la contribution du secteur forestier au budget de l'État?
Je crois qu'il ne faut pas accélérer. La contribution à l'heure actuelle est faible. Nous avons fait l'état des lieux à travers l'élaboration de la politique, du document technique de la politique forestière de la RDC. Elle avoisine à peine 1%. Et dans les projections, à travers les documents de stratégie de réduction de la pauvreté, il va falloir que dans les 10 années à venir, qu'on arrive à une contribution d'environ 10% dans les comptes de l'économie nationale. Donc, il n'y a pas à se faire division, mais en tout cas, il faut reconnaître que ces mesures d'encadrement sont clairement définies à travers les documents de politique forestière qui va avoir dans les jours à venir une bénédiction politique pour sa publication conformément à l'esprit du Code forestier.
Merci, ingénieur José Ilanga. Je rappelle que vous êtes directeur des études et de planification au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Jean-Marie Bolika, vous êtes chef des projets Société Civile au Fonds Mondial pour la Nature, WWF, et signalez en même temps qu'il nous reste moins de 10 minutes pour terminer l'émission. Par rapport à l'avenir, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans ce code forestier pour qu'il puisse réellement contribuer à améliorer les choses en RDC?
Bon, avant de parler des améliorations, je crois que je voudrais réagir par rapport à ce que le directeur José a dit tout à l'heure par rapport au contrôle forestier. Vous allez remarquer qu'il a fait allusion à SGS et qu'est-ce qui se passe? Je prends les cas de WWF qui aussi travaille aussi sur le contrôle forestier, qui appuie l'administration forestière dans le contrôle forestier. Plusieurs fois, il y a eu des dénonciations, soi-disant que à tel endroit, il y a eu quelqu'un qui a voulu, des Chinois ou des Indo-Pakistanais qui ont violé des concessions appartenant à tel exploitant industriel. On a diligenté des missions. À la fin des missions, on dépose un rapport au niveau de l'administration forestière. Il n'y a jamais eu de feedback. Aujourd'hui, il y a plus de 150 dossiers qui se trouve sur la table de la direction de la direction de contrôle et vérification interne. Et là, nous voulons qu'on nous dise exactement ces dossiers-là appartiennent à qui. Qui sont ces exploitants-là? Est-ce que ces bois-là ont été réellement saisis ou sont partis ces bois-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire que non, ces bois-là sont stockés quelque part et on fera l'adjudication pour que des personnes qui sont connues viennent les acheter? Est-ce que ces gens-là sont sanctionnés, les gens qui sont en train de violer la législation forestière?
Alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le code forestier?
Je crois que dans tout ce que je viens de dire tout à l'heure, ici, ça vaut la peine. Même si on dit que le zonage n'a pas commencé, mais je sais qu'il y a eu des zonages pilotes dans certains paysages. Ça veut dire que ça a commencé. Nous voulons que tous ces aspects-là soient achevés. Alors, je ne parlais qu'un exemple, mais en fait, il y en a plusieurs. Mais qu'on puisse améliorer le contrôle forestier. La direction de contrôle et vérification interne n'a pas de ressources pour faire le contrôle forestier. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour financer cette direction-là, par exemple?
Madame Françoise Van de Ven, vous êtes secrétaire générale de la Fédération des industriels du bois, FIB en sigle. Il y a des auditeurs qui ont leurs propositions. Il y en a un qui est anonyme qui dit: l'État ne peut-il pas créer des unités de transformation et diminuer le chômage au lieu d'exporter le bois brut pour alimenter les emplois à l'étranger? Sylvain Kesongo, depuis Manono Katanga, le gouvernement congolais a-t-il vraiment besoin d'une pétition? Non, je crois que celle-là sera adressée à l'ingénieur Ilanga. Pourquoi ne pas créer des unités d'exploitation sur place?
Il y a déjà le problème de courant. donc l'énergie d'approvisionnement, parce qu'une usine qui doit tourner, elle a besoin d'énergie, d'une source d'énergie, et là ça devient déjà très problématique. D'autre part, nous avons, et ça c'est la situation géopolitique du pays, nous avons des interruptions de charges très importantes, hein, donc ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. On a un arbre coupé peut être dans le port pour exporter en ayant les 2 semaines, ce qui n'est pas le cas ici. On parle parfois de 2-3 mois, le temps d'évacuation, et certainement dans des périodes de creux du fleuve, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc la problématique siège un peu là-dedans. Et puis il y a aussi une insécurité juridique. Pendant toute la période de la revue légale, les sociétés ne savaient pas s'ils allaient maintenir leur titre ou pas, parce que les conditions finales, on ne les connaissait pas. Et donc ça aussi, ça ne contribue pas. Et malheureusement, au même moment où on a achevé la revue légale, la crise financière nous a frappé de plein fouet. Et c'est toujours le cas encore aujourd'hui. Ce qui, évidemment, encourage encore davantage cette exploitation illégale et qui est bien reconnue. Je veux dire, il y a des lots qui ont quand même été saisis et qui sont libérés avec un simple coup de fil. Il n'y a pas longtemps, 10 000 mètres cubes comme ça ont été libérés au niveau du Katanga. Et à Matadi, on a connu aussi un lot qui appartenait à un député du président, de précédente législation, et le lot a été libéré aussi. Donc, tant qu'il y a une impunité qui se maintient, et on n'aura pas de solution, et on n'arrivera pas à respecter une gestion et une exploitation durable, et le secteur formel ne ferait qu'à diminuer ses possibilités d'accroître.
Ingénieur José Ilanga, la réaction que je vous ai réservée, Sylvain Kasongo depuis Manono Katanga, le gouvernement congolais a-t-il vraiment besoin d'une pétition pour que les ressources de la RDC puissent profiter aux Congolais? Des millions de dollars entrent dans les poches creuses de quelques hauts fonctionnaires, le petit peuple continue aura de croupir des conséquences de la déforestation. Qu'est-ce qu'il faut, en plus, en répondant à cette question, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le code forestier?
Moi, je crois qu'il y a, lorsque vous faites allusion au code forestier, il n'y a rien à améliorer dans le code forestier. Beaucoup plus, ce qu'il faut faire, c'est fournir les efforts pour que, effectivement, les textes d'application du code forestier soit l'application soit effective.
J'ai suivi Madame Van de Ven,
car lorsqu'il fait allusion à la non-implication des secteurs privés dans l'élaboration du code forestier, je m'en veux juste de dire qu'effectivement, toutes les parties prenantes ont été associées dans l'élaboration et validation des textes d'application. Je crois que c'est ça qui soit plus important. Il ne suffit pas seulement de disposer des lois, mais il faut avoir ces textes d'application. Et qu'est-ce qu'il faut pour que je disais tout à l'heure, ce sont les efforts qui sont en train d'être menés à travers l'applicabilité des textes.
Le ministère a-t-il suffisamment de moyens pour ça?
Vous savez, les moyens, on les a pas en un jour, ni en une journée. J'ai fait allusion à la question que Jean-Marie a posée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le ministère ne fournit pas un effort pour rassurer l'efficacité de la direction des contrôles? Non. Écoutez, je crois tous, nous sommes là, nous assistons à un processus de renforcement de capacité des structures du ministère de l'Environnement. Et pour renforcer les contrôles forestiers, il faut assurer la mobilité des services, la mobilité des agents commis à la tâche. Et pour le moment, vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, le ministère venait d'acquérir un lot important des véhicules et de tout l'équipement de contrôle, d'un don japonais. Donc, au fait, on est à mesure maintenant de dire on sait renforcer les contrôles. Merci. Et les contrôles déjà démarrent.
Jean-Marie Bolika, il faut déjà conclure. Juste un mot.
L'application du code forestier.
Un point, c'est
oui. L'application stricte du code forestier.
Madame Van de Ven, conclusion. À quoi peuvent s'attendre les pays, les populations riveraines qui vous suivent en ce moment?
Ben, je crois que les populations riveraines doivent beaucoup plus s'informer quand ils voient un exploitant forestier qui descend chez eux, et de pouvoir s'imprégner par quel document est-ce que la personne vient couper et la validité ou la légitimité du document en question. Et c'est ça qui va aider aussi les populations à comprendre. Mais je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur l'impunité. Rapidement, quand on dit qu'on n'a pas les moyens, je ne sais pas, du ministère de l'Environnement jusqu'au beach Gobila, là, ici, le port de Kinshasa, s'il faut beaucoup de moyens pour aller sur place et saisir les bois.
Merci. Ingénieur José Ilanga, conclusion.
En conclusion, je crois, après cet échange, je suis content de constater qu'effectivement, toutes les parties reconnaissent l'efficacité, les côtés, les bilans positifs de l'application des textes d'application du code forestier. Il faut les renforcer et aller un peu plus de l'avant et doter les ministères de moyens conséquents pour conclure, enfin, pour aboutir, faire aboutir ce qu'il a déjà commencé.
Merci monsieur et madame d'avoir participé à cette émission. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. L'information continue sur Radio Okapi. Au revoir.